France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires sensibles, Jiang Qing, la veuve de Mao. Durant tout le XXe siècle, elle a été la femme la plus puissante de Chine, la plus haïe également. Au regard de son rôle dans la révolution culturelle qui déchira le pays entre les années 60 et 70. Accusée en 76 de haute trahison et de complot visant à renverser le gouvernement, son procès est aussi impressionnant que factice. Des noms, des surnoms, elle en a eu plusieurs. L'impératrice rouge, la sorcière aux os blancs. Mais pour l'histoire, en Occident surtout, elle est restée la femme de son mari, Madame Mao. Peu importe ses responsabilités au sein du parti, peu importe les meurtres et arrestations arbitraires qu'elle a commandités, ce n'est pas son nom que l'histoire a retenu. Jusqu'au moment où, à la mort du timonier, les nouveaux dirigeants de la République populaire ont dû trouver un moyen d'évincer les maoïstes radicaux sans remettre en question l'héritage et donc le nom du fondateur du régime. Jusqu'au moment où il a fallu un bouc émissaire, là, et seulement là, il fut nécessaire que Madame Mao redevienne Jiang Qing, la responsable de tout, ou presque. C'est donc sa vie que nous allons vous raconter, inspirée notamment du livre « Madame Mao, l'impératrice rouge » de Tang Qiao, paru chez Albin Michel en 1997, et de « Madame Mao », documentaire réalisé par Galen Yeo et Hong Jingfeng, diffusé en 2012, produit par Terra Noa. Notre invité aujourd'hui, Yves Chevrier, sinologue et historien. Il est directeur d'études à l'EHE2S et notamment l'auteur de l'Empire terrestre, Histoire politique en Chine, en plusieurs tomes, paru aux éditions du Seuil. Affaires sensibles, une émission diffusée en direct, une émission de France Inter. Récit documentaire Juliette Proutot, coordination Franck Cognard, chargé de programme Rebecca Donnante, réalisation Frédéric Milano et David Leprince.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles. Sur France Inter.
Mardi 14 mai 1991, Pékin. Dans une clinique de la capitale chinoise, une vieille femme a décidé de mourir. Elle a presque 80 ans. Et si son visage s'est creusé, il y a dans sa façon de se tenir une autorité que même son prochain trépas ne semble pas entamer. Mettre fin à sa vie, cela fait peut-être plusieurs semaines, plusieurs mois qu'elle y pense. Et c'est aujourd'hui qu'elle a décidé de passer à l'acte. Mais le suicide n'est pas une mort comme les autres, notamment dans la tradition chinoise. Ainsi, pour certains spécialistes, il constituerait une honte permanente sur les épaules de ceux qui en sont la cause. Une mort réputée pour créer des fantômes. En particulier quand il s'agit de pendaisons et de femmes. Or, c'est elle qui est en train de rouler les draps de son lit pour en faire une corde, n'est pas une femme ordinaire. Elle s'appelle Jiang Qing. Ce n'est pas son nom de naissance non plus. C'est celui sous lequel les Chinois et le reste du monde la connaissent, Madame Mao Tse-tung. À près de 80 ans, elle ne reconnaît plus ni son pays, ni son époque. Ça va faire 10 ans qu'elle a été condamnée à mort par un tribunal d'exception, au cours d'un procès d'exception. 10 ans d'humiliation supplémentaire. Elle aurait accepté, peut-être même endossé la posture d'une martyre, vieille, cancéreuse, moribonde, qu'on a épargnée pour mieux la faire disparaître des regards et de l'histoire. Eh bien non, elle ne compte pas s'éteindre sans bruit, alors que pour son mari, on a construit des cercueils de cristal et les plus grands mausolées. Elle avait dit à sa fille « Je mourrai avec sensation ». Alors, elle attend que l'infirmière soit sortie de sa chambre, elle se lève et va se pendre dans la salle de bain. Preuve que le sujet est sensible, le Parti communiste cache sa mort pendant des semaines. Il faudra attendre le 6 juin 91 pour que le monde apprenne le suicide de l'ancienne première dame du pays.
Confirmation de ce que je vous disais hier au conditionnel, la veuve de Mao Tse-tung s'est bien pendue. Confirmation officielle de la part des responsables chinois. L'agence Chine Nouvelle annonce en effet que Jiang Qing s'est suicidé le 14 mai dernier à l'âge de 77 ans à Pékin, là où elle était en résidence surveillée depuis sa condamnation à mort, commuée depuis en détention à perpétuité. Isabelle Marc.
Voici la dernière image publique de Jiang Qing, celle d'une femme qui écrase ses juges de son mépris. C'est en 1980, lors de son procès, où les accusés n'ont pas droit à une défense. Pourtant, personne ne la plaint. Depuis la mort, 4 ans plus tôt, du grand timonier, elle est devenue le symbole détesté de cette bande des quatre fameuse, les ultra-radicaux, accusés d'avoir persécuté des dizaines de milliers de Chinois pendant la révolution culturelle. Propagatrice officielle de la pensée de Mao, elle règle ses comptes, persécute les intellectuels et purge impitoyablement les milieux culturels. Elle s'est donc suicidée le 14 mai.
Ainsi s'achève le destin d'une femme qui, partie de rien, a réussi à se hisser avec les dents en haut de l'échiquier politique chinois. Mais qui était-elle, cette ancienne starlette de cinéma devenue première dame, parvenue à force d'ambition, de rancune et de cruauté, à scandaliser un parti et traumatiser un pays? Sa personnalité impitoyable, Chang Qing se la forge dans son enfance, modeste dans une ville située sur la côte est du pays, entre Pékin et Shanghai. Son père est violent, avec elle, comme avec sa mère. De lui, elle dira plus tard « Je dois remercier mon père cruel et brutal, car le bâton qu'il brandissait dans sa main a forgé mon âme. Je suis devenu inflexible, osant défier le ciel et la terre. » Et quand elle parle de bâton, c'est loin d'être une image. Elle aussi a eu les pieds bandés, fruit de cette pratique ancestrale extrêmement douloureuse, infligée aux fillettes pour des prétextes esthétiques. Une pratique qui lui donne une démarche un peu bizarre, boiteuse. Et si ses petits camarades de classe lui font payer cette différence, c'est pas dire que la petite ne se laisse pas faire. Tang Qiao, auteur d'une biographie sur la future Madame Mao, raconte cette réputation de bagarreuse, citant notamment l'un des bulletins scolaires de la fillette rédigé par la directrice de son école.
Li Shumeng, écolière de 6 ans peu sérieuse dans ses études, se laisse emporter par des caprices violents et refuse de s'amender en dépit d'efforts répétés pour l'éduquer. Ces derniers temps notamment, elle a provoqué une série de troubles, blessé des camarades, au mépris des règlements de l'école. Pour faire respecter la discipline, la direction a décidé l'exclusion immédiate de Li Shumeng.
La mère de Zhang essaie de fuir plusieurs fois le domicile familial, sa fille sous le bras. Elle est finalement accueillie par les grands-parents qui acceptent, à contre-cœur, de les prendre sous leur toit. Et comme ce sera souvent le cas dans la vie de Zhang Qing, son histoire personnelle vient percuter celle de son pays. Car en 1921, alors qu'elle entame un nouveau chapitre de son existence, la Chine entre elle aussi dans une nouvelle ère politique, avec la création du Parti communiste. Instituée en 1912, la jeune république subit des vents mauvais à l'intérieur et à l'extérieur de son territoire. Le nord du pays est encore dominé par les seigneurs de guerre, des chefs militaires qui se partagent le pouvoir et qui sont en conflit avec le gouvernement de la république, le gouvernement nationaliste. Les nationalistes eux-mêmes sont en conflit ouvert avec l'armée et le parti communiste. Une situation très complexe, voire infernale. Résumé par Roger Vrigny, présentateur de l'émission Lettre ouverte sur France Culture, alors qu'il interviewe Lucien Baudard, grand reporter, auteur d'un livre sur la veuve de Mao.
Le romancier Baudard retrace la vie de cette femme depuis son début. Hein, depuis, on la retrouve là, toute petite, et c'est toute sa vie que l'on va suivre, parce que c'est justement toute cette époque de la Chine où la Chine est en proie à l'anarchie la plus complète. Elle est en partie conquise par les Japonais, elle est mise en coupe réglée par les seigneurs de la guerre, il y a Chiang Kai-shek et le Kuomintang, et il y a aussi la force des Rouges et des communistes. Enfin, il y a à peu près tous ces partis-là, plus les Occidentaux qui sont à Shanghai, et c'est-à-dire les Anglais, les Français et compagnie, les Allemands et tout. Hein, il y a à peu près tout ça dans la Chine. Alors, où est la Chine, pourrait-on dire? Où est-elle là-dedans?
C'est un peu la Chine que j'ai connue comme gosse.
Oui.
Moi, oui, j'ai vécu la Chine des seigneurs de la guerre. Et j'ai vécu dans une Chine complètement moyenâgeuse.
C'est donc dans cette ambiance de guerre civile que grandit Zhang Qing. Devenue jeune adolescente, elle ne compte pas se laisser exploiter par un système brutal et misogyne. Son avenir, elle le voit en grand. Elle veut tout et elle n'a rien à perdre. Deux caractéristiques qui fabriquent des gens ambitieux et dangereux parfois. Première étape, sortir de l'anonymat et de sa condition sociale. Pour cela, elle va prendre un virage surprenant au regard de son milieu social, le théâtre. Elle sait qu'elle est intelligente, à défaut d'être une bonne élève, et surtout, elle sait qu'elle est jolie, belle même. Son corps, son physique. Elle a vite conscience qu'il s'agit peut-être de sa meilleure carte pour parvenir à s'élever. Et quel meilleur endroit pour mettre en valeur ses atouts-là qu'une scène sous les projecteurs. l'adolescente se prend de passion pour les planches et le cinéma. À 15 ans, un amant de sa mère lui trouve un travail dans le petit conservatoire d'art dramatique qu'il dirige. Elle se marie l'année suivante avec le fils d'un commerçant qu'elle quitte au bout de quelques mois. Parce qu'elle s'ennuie, elle veut plus, car elle est persuadée qu'elle mérite mieux. Alors, quand elle apprend que l'ancien directeur du conservatoire est désormais président de l'université de la grande ville portuaire de Qingdao, elle y voit une ouverture. Elle le supplie de lui trouver un travail. Bien, il lui offre un petit poste à la bibliothèque de l'université. Elle quitte son mari et déménage sans se retourner. Nous sommes en 1931 et c'est là que la future Madame Mao rencontre la politique. À Qingdao, en effet, elle fait la connaissance d'un leader du parti communiste chinois, Yu Qiwei, le responsable de la propagande. En fréquentant cet personnage important, la jeune femme comprend que la politique pourrait lui offrir une rampe de lancement bien plus efficace que le théâtre ou le cinéma. Alors, elle épouse Qiwei, qui l'introduit dans les milieux communistes locaux. Et c'est lui qui l'aide à se faire une place, comme l'explique l'écrivaine Diane Ducret dans son ouvrage « Femme de dictateur ».
Si les sentiments patriotiques de Yun-hye sont sincères, ses connaissances politiques sont bien minces. Elle ne connaît pas la différence entre le Parti communiste et le Parti nationaliste. Sa connaissance du marxisme se réduit à quelques grossières formules et opinions tranchées. Nous avons raison et ils ont tort. Elle n'en sait pas davantage, ce qui ne l'empêche pas de faire illusion et d'entrer au parti.
Mais la vie austère de militante communiste ne lui ressemble pas. C'est qu'elle a dû tout lâcher, déjà, depuis son adhésion au parti, son boulot de bibliothécaire, les petites pièces dans lesquelles elle jouait. Parce qu'on ne plaisante pas avec la politique. C'est un milieu sérieux, qui ne tolère pas les mondanités et autres caprices bourgeois. Tout ce qu'elle aime pourtant. Alors, à quoi ça sert d'avoir un époux haut placé? D'avoir ne serait-ce qu'un peu de pouvoir, si c'est pour ne rien en faire d'autre qu'organiser des réunions clandestines et écrire des tracts dans des immeubles sombres? Pour Jiang Qing, la réponse est simple, ça ne sert à rien. Alors, à 19 ans, elle divorce pour la seconde fois et décide de partir vers la ville la plus en vogue, la plus cosmopolite et occidentale du moment, la flamboyante Shanghai.
Bye.
Aujourd'hui, la veuve de Mao.
France Inter, affaires sensibles.
Quand la future Madame Mao arrive à Shanghai, la capitale du divertissement, nous sommes en 1934 ou 1935. Elle donne des cours du soir pour se faire un peu d'argent, s'emploie à se construire un réseau en usant de sa détermination et de son pouvoir de séduction. Et comme toujours avec cette jeune femme, c'est précaire mais ça fonctionne. Elle finit même par obtenir une petite renommée en tant que comédienne, de seconde zone, certes, mais quand même. Elle fréquente pas mal d'hommes, se marie, divorce. Elle tente aussi de s'engager davantage auprès des communistes. Mais sa réputation de séductrice, peu instruite, arriviste, ne plaît pas au cadre du parti. Et la situation géopolitique du pays vient percuter les ambitions de Chiang Kai-shek. Nous sommes maintenant à l'été 1937 et les Japonais bombardent Shanghai. Comme une grande partie de ses compatriotes, Chiang Kai-shek décide de fuir. La jeune starlette part pour Yan'an, une ville troglodyte du centre de la Chine dont les communistes ont fait leur base arrière. Mais dans cette cité simple et sobre, l'actrice n'est pas reçue comme elle l'imaginait. Le biographe Ross Terril raconte son arrivée dans le documentaire Madame Mao.
Chiang Kai-shek pensait qu'elle serait accueillie à bras ouverts, qu'elle arrivait en terrain conquis et qu'on ne lui refuserait rien. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. À Yan'an, les femmes étaient déjà de vraies révolutionnaires. Elles avaient les cheveux courts, elles étaient habillées comme les hommes. Elles étaient loin de ressembler à cette actrice venue de Shanghai. Chiang Kai-shek cherchait un endroit où danser, mais on lui a dit qu'on ne dansait pas ici. Elle se maquillait, elle était très féminine. Alors, ça a été un choc pour elle.
Mais la jeune femme de 23 ans ne se laisse pas abattre. Elle a entendu parler d'un homme promis un brillant avenir au sein du parti, un certain Mao Tse-tung, de 20 ans son aîné. Il y a plusieurs versions de la façon dont ils se rencontrent. L'une des histoires les plus répandues est celle selon laquelle Chiang Kai-shek se serait installé au premier rang lors d'une conférence de Mao et aurait applaudi particulièrement fort pour se faire remarquer par le leader communiste. Ce dernier serait alors tombé sous le charme de la belle et charismatique actrice bien différente des autres femmes de la ville. Toujours est-il que Mao tombe effectivement amoureux de Chiang Kai-shek. Mais si le couple semble filer le parfait amour, la présence de cette femme au bras du leader n'est pas du goût des cadres du parti. Une actrice de seconde zone, au passé trouble et sulfureux, ne correspond pas à l'image que ce parti se fait de la première dame chinoise. Alors qu'ils espèrent que la relation ne durera pas, le couple annonce un mariage. Mais pour les cadres communistes, encore eux, une femme, ça obéit à son mari, ça sert la cause. Si Chiang Kai-shek veut vraiment épouser son leader, elle va devoir faire des sacrifices. Il est ainsi exigé qu'elle ne s'engage pas en politique, qu'on ne la voit pas aux côtés de Mao sur les photos officielles, bref, qu'elle s'efface, qu'elle disparaisse complètement. Pendant 20 ans, oui, tel est le contrat proposé par le parti, c'est à prendre ou à laisser. Ravalant sa rage, la jeune femme accepte. Mais elle ne pardonnera jamais cet affront. Elle fait confiance au projet politique de son mari, il faut être patiente. Et puis, vous savez ce qu'on dit de la vengeance. Le couple se marie en 1938. Les mois, puis les années passent, et Chiang Kai-shek agit tant que faire se peut selon les consignes qui lui ont été données. Elle fait détruire toute trace de son passé d'actrice, des copies de films jusqu'aux articles sur sa vie. On l'envoie à la campagne travailler dans les champs, une éducation communiste en quelque sorte. Et c'est peu dire que l'ambitieuse ronge son frein. Elle qui rêvait de paillettes et de pouvoir, elle se retrouve à jouer la paysanne travailleuse au fin fond du pays, la loose. Mais à la fin de la Seconde Guerre mondiale, changement de décor, le conflit avec le Japon prend fin. Et en 1949, Mao proclame l'avènement de la République populaire de Chine et la nouvelle organisation du pays.
Nous avons appris aujourd'hui l'élection de Mao Tse-tung comme président du Conseil central du gouvernement populaire chinois. Pourriez-vous nous préciser le sens de cette élection ?
La commission consultative politique, qui s'est réunie à Pékin depuis 8 jours, a élaboré une nouvelle constitution. Cette constitution est dès à présent mise en application. 3 organes de gouvernement. Primo, l'Assemblée nationale, élue au suffrage universel. Deuxièmement, le Yuan exécutif ou Conseil des ministres. Troisièmement, enfin, le Conseil central, qui coiffe le Yuan exécutif, Conseil central issu de l'Assemblée et qui en fait a le pouvoir. Mao Tse-tung, qui est maintenant président du Conseil central du gouvernement populaire, a au fond les pleins pouvoirs et le gouvernement chinois est constitué.
Le couple s'installe dans la cité interdite au cœur de Pékin avec leur jeune fille Lina, née en 1940. Mais leurs relations avec Mao, qui a désormais beaucoup plus de responsabilités, sont difficiles. D'autant qu'il la force à s'exiler à Moscou pour traiter son cancer, loin de lui et de la jeune République populaire. Convalescente, frustrée, invisibilisée, Chang Jing est de plus en plus colérique, radicale. Et puis en 1958, c'est Mao qui est écarté du pouvoir. C'est que le grand bond en avant, le nom donné à l'ensemble de réformes agricoles et industrielles lancées par le grand timonier, est un échec dramatique. Ce programme de réforme aboutit même à la pire famine de l'histoire mondiale. Pire encore que la soviétique dans les années 30, avec au moins 30 millions de victimes. Cette débâcle fragilise Mao, bien sûr. Mais Jiang Qing en a vu d'autres. Elle commence alors à s'intéresser plus sérieusement aux enjeux, aux tensions politiques qui traversent le parti communiste de l'époque. Elle s'investit, radicalise sa pensée. Et elle change sa façon de se tenir, de se présenter. Et puis, au bout de quelques années, Mao reprend la tête du pays. Et cette fois, il n'est plus question pour sa femme de jouer les géraniums. Elle veut une place, sa place, sous les lumières de l'arène politique. De fait, son mari s'appuie davantage sur elle, notamment dans le domaine culturel. Ainsi, avec Lin Biao, le vice-premier ministre, elle se concentre sur la purification ou réforme prolétarienne des arts et de la littérature. Autrement dit, de la propagande. Élu député en 64, ses initiatives en la matière se font de plus en plus importantes, de plus en plus violentes également. Elle écarte nombre de pièces d'opéras traditionnelles pour écrire les siens, des œuvres, enfin si l'on peut dire, qu'on appelle les modèles révolutionnaires, et qui sont au nombre de 8. Elles seules seront autorisées durant les années suivantes. D'une qualité artistique médiocre, ces modèles mettent en avant l'univers et l'héroïsme prolétaire. En mettant le nez dans la culture, Chang Qing a eu le nez creux. Mao semble avoir pris conscience de l'importance de la propagande pour la survie du régime et il lance, en 66, la fameuse révolution culturelle prolétarienne avec ses terribles gardes rouges.
Ils sont des millions. Dans le pays, les cours ne sont plus assurés. Ils convergent vers la place Tiananmen. Ce 18 août 1966, équipés de brassards, petits livres rouges en main, les jeunes Chinois deviennent des gardes rouges. Lancée par Mao, la révolution culturelle vit alors ses premières heures. Pour assurer son pouvoir, le grand timonier veut purger le parti communiste. Il s'appuie sur la jeunesse, et sur ce livre, un recueil de citations de Mao lui-même. À l'intérieur, Mao prône la révolution permanente. Il affirme qu'on a raison de se révolter. La phrase va marquer toute une génération. Les gardes rouges sillonnent le pays et instaurent un climat de terreur. Gare aux élites, aux intellectuels. Les valeurs traditionnelles chinoises et occidentales sont bannies. L'heure est aux autocritiques en public et aux exécutions. La révolution qui n'a de culturel que le nom aurait fait entre 3 et 5 millions de morts.
Chang Qing n'est pas l'unique responsable de tous ces morts, certes. Mais son pouvoir n'est pas négligeable. Jamais elle n'est aussi puissante que durant cette triste période. Elle est d'ailleurs nommée responsable du groupe directeur de la Révolution culturelle et membre du comité central du parti. Et cette fois, elle est de toutes les photos, de toutes les scènes. Elle endosse un rôle fondamental auprès des gardes rouges. Elle devient leur mentor. Entre vendetta personnelle et réformes arbitraires, l'ex-actrice s'en donne à cœur joie. Des metteurs en scène qui lui ont refusé des rôles jusqu'au cadre du parti qui l'ont méprisé, elle fait emprisonner ou déporter tout le monde. Jiang Suhui, par exemple, le chorégraphe du ballet Le Détachement Féminin Rouge, la chorégraphe, très connue du répertoire chinois à l'époque, témoigne en 2016 à l'AFP et au journal Le Point de son expérience dramatique avec Madame Mao. Elle explique avoir invité Chang Qing à monter sur scène, rejoindre la troupe à la fin d'une représentation à laquelle la femme du président assistait. Donc, cette dernière refuse, la chorégraphe insiste, poliment, mais insiste. Chang Qing prend ça pour de l'insolence. Conséquence, 3 années enfermées dans un théâtre avec pour unique sortie des séances critiques organisées par les gardes rouges, puis 6 ans supplémentaires passés à la campagne, au bagne en vérité, avec d'autres artistes ou intellectuels contre-révolutionnaires. Bref, c'est une tornade qui s'abat sur tous ceux que Chang Qing considère comme des ennemis. Autre exemple, Wang Guangmai, la femme d'un précédent président chinois qui avait temporairement remplacé Mao. Cette physicienne est humiliée publiquement et emprisonnée pendant des années. Pourquoi ? Parce qu'elle était apparue dans les médias lors d'un voyage officiel en Indonésie vêtue d'une robe et d'un collier de perles. Intolérable pour une honnête communiste. Dans le documentaire Madame Mao, le biographe Ye Yongli résume la personnalité de l'impératrice rouge à cette époque.
Un jour, j'ai surnommé Chang Qing la déesse de la vengeance. C'était quelqu'un de très mesquin qui avait la rancune tenace. Quand elle a pris le pouvoir, elle a tout de suite entrepris de se venger.
En 1969, Jiang Qing devient la première femme membre du Politburo, l'organe politique suprême du Parti communiste chinois. Elle est la femme la plus influente de Chine. Mais qu'on ne s'y trompe pas. Tout ce qu'elle entreprend est réalisé avec l'assentiment de son époux. Alors, quand ce dernier, sous pression, décide de dissoudre les gardes rouges et de ralentir la révolution culturelle, sa femme doit obéir. Nous sommes alors au début des années 70, et il y a comme une odeur de fin de règne dans le palais impérial. La santé du président, âgé de plus de 80 ans, décline progressivement. Il se passe alors ce qui se passe toujours à la fin des règnes, une lutte de pouvoir interne et sans merci pour savoir qui remplacera le leader. Et à ce jeu-là, Jiang Qing n'est pas en reste. Au contraire, son ambition n'a jamais été aussi forte. Qui mieux qu'elle pour succéder à son mari ? Elle a juste oublié que son empire dépendait uniquement de son mari, justement. Et elle a la naïveté de croire que la Chine est prête à être dirigée par une femme. C'est sûrement l'une de ses plus grandes erreurs. Non seulement, à l'image de tant d'autres, le pays n'est pas prêt, mais elle a aussi sous-estimé la révolte qui gronde au sein du peuple après la révolution culturelle. Les radicaux n'ont plus le vent en poupe, et la première dame pourrait représenter une menace pour l'aile réformiste du parti. Jiang Qing et le reste de la fameuse bande des quatre est arrêté en 1976, moins d'un mois après la mort de Mao. C'est Hua Guofeng, le successeur désigné par le grand timonier pour prendre la tête du parti et du pays, qui est à l'origine de l'arrestation. Ne pouvant pas éliminer l'ancienne première dame, les cadres communistes décident alors d'organiser un procès, notamment pour juger Jiang Qing et ses acolytes radicaux, surnommés donc la bande des quatre, pour crimes commis pendant la révolution culturelle. Une cour spéciale est constituée. L'enjeu pour le parti communiste est aussi fondamental que délicat. En finir avec le maoïsme sans renier l'intouchable héritage du fondateur de la République populaire. Et pour innocenter Mao des crimes finalement considérés comme contre-révolutionnaires commis ces 15 dernières années, quoi de mieux que d'accuser sa femme ? Il faudra attendre 4 ans pour que le procès ait lieu. 4 ans pendant lesquels Jiang Qing est dénigré, calomnié. 4 ans pendant lesquels le pouvoir en place s'efforce de détourner l'attention de Mao pour mieux la retourner contre sa veuve. Nous sommes donc en novembre 80 quand le procès s'ouvre et que Jiang Qing entre dans la salle d'audience, accusé avec le reste de la bande des quatre de complot et de trahison. Fait exceptionnel, les audiences retransmises à la télé. Un journaliste décrit la scène pour Antenne 2.
Ah oui, image tout à fait exceptionnelle de ce procès, qui est la conclusion de la lutte la plus féroce que n'ait jamais connue le Parti communiste chinois depuis 31 ans. Nous voyons arriver ici les 10 co-accusés. Le président de la cour annonce Mme Chang Qing, la voici. Elle a épousé Mao Tse-tung en 1939 et son pouvoir a atteint son apogée en 1968, tout à fait pendant la révolution culturelle. 800 personnes ont été désignées pour représenter les diverses provinces de la Chine et les associations et mouvements de masse au débat qui risque de se prolonger pendant plus d'un mois.
Le dispositif judiciaire et médiatique est simplement hallucinant. Un public de plus de 600 personnes triées sur le volet, 300 journalistes chinois et internationaux, 35 juges, 10 avocats de la défense, c'est un procès hors norme. Et pour une fois, l'expression n'est pas galvaudée. Mais ce que le parti n'avait pas imaginé, c'est que Jiang Qing saurait si bien utiliser le théâtre judiciaire. Voulant rendre son humiliation publique, les organisateurs du procès ont offert une scène, une tribune et des projecteurs à une ancienne comédienne, à une femme en manque de reconnaissance. Erreur funeste. Seule femme jugée par des hommes, elle ne tremble pas. Elle n'a pas peur, ne montre aucune culpabilité. Et elle aura cette phrase célèbre « J'étais le chien de Mao, je mordais quand il me disait de mordre, alors avant de battre le chien, adressez-vous à mon maître. » Ce n'est peut-être pas ce qu'elle pense vraiment, mais si c'est un rôle de composition, elle le joue à merveille. Voici un extrait de son témoignage.
« Je n'ai jamais eu un programme qui me soit propre. Je n'ai fait qu'appliquer et défendre les décisions et les directives du comité central du parti. Je n'ai fait qu'appliquer et défendre la ligne révolutionnaire prolétarienne du président Mao. Vous êtes vraiment en train de chercher midi à 14h. Vous amalgamez les meurtriers et ceux qui auraient été leurs victimes. Or, la victime que vous prétendez être un meurtrier, ne l'oubliez pas. Elle a été la femme du président Mao pendant 38 ans, jour pour jour. Et cela sans compter les années où nous nous fréquentions avant notre mariage. Pendant tout ce temps, nous avons partagé bonheur et malheur ensemble. Durant les années de guerre, moi, j'étais la seule femme à suivre le président Mao au front. Et vous, où étiez-vous donc cachée à ce moment-là, hein? Je proteste contre ce complot flagrant. Épouse de Mao Zedong, le fondateur de cette nouvelle république, je n'ai rien accompli qui n'ait été recommandé ou approuvé par le président Mao. Alors que son corps n'est pas encore complètement refroidi et que sa veuve est en proie à de grands malheurs, ce que vous commettez est bel et bien contraire à la loi du ciel.
Jiang Qin est condamné à la peine de mort, commuée en prison à vie. Un verdict évidemment décidé bien en amont de ce procès truqué. On connaît la suite. L'impératrice rouge, comme on l'appelle, la sorcière aux os blancs et aux quatre noms, se suicide 10 ans plus tard. Comble pour cette femme à l'ambition démesurée, elle sera ensuite effacée de toutes les photos officielles par le gouvernement. Invisible. Aujourd'hui, la veuve de Mao, dont nous parlons avec notre invité Yves Chevrier. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sinologue et historien, directeur d'études à l'EHESS, ou 2S, et notamment l'auteur de L'Empire terrestre, Histoire politique en Chine, en plusieurs tomes parus aux éditions du Seuil. D'abord, comment prononcez-vous le nom de la veuve de Mao? Vous le prononcez comment?
Eh bien, en fait, il faut prononcer le J comme s'il s'agissait d'un son intermédiaire entre K et T, donc Jiangqing, ouais. Plutôt que Jiangqing.
D'accord. Bon, je ne connais pas le chinois, je pars de loin, donc je peux poser la question. Alors, deux camps se sont opposés à la mort de Mao. Quels étaient ces deux camps?
Vous avez rappelé que la fortune politique de Jiangqing vient de sa rencontre et son mariage avec Mao, mais qu'elle passe de longues années dans l'obscurité et dans un second rôle qui ne lui plaisait pas vraiment. Et c'est à partir de la révolution culturelle, donc même de la pré-révolution culturelle, après 1958, qu'elle commence à prendre une importance politique majeure. Et la révolution culturelle qui éclate en 1966 la propulse au sommet du pouvoir, mais avec cette caractéristique qui est dans la pratique politique, non pas de la seule Jiangqing, mais de Mao lui-même. Les deux sont parfaitement complémentaires, et c'est ce qui explique que Mao l'ait soutenu et plus que toléré jusqu'à la fin de sa vie, qui est que l'action politique est conçue et pratiquée comme une lutte permanente entre des groupes, entre des factions, aussi bien au sommet du pouvoir à Pékin que dans les provinces et à la base. Et ce chaos, car il s'agit véritablement d'un chaos, la Chine a été au bord de la guerre civile en 1967, ce chaos sanglant est tellement menaçant pour l'ordre civil et pour le bien-être de la Chine, qu'à partir de 1968, comme vous l'avez souligné, Mao sonne retraite, mais surtout il donne le pouvoir aux militaires. Les militaires, ce sont Lin Biao et son armée. Ce qui fait que ces luttes factionnelles incessantes commencent à s'organiser à partir de 1970-71 entre deux camps, l'un est celui que dirige Jiang Qing et l'autre est celui que dirige Lin Piao. Comme nous le savons, Lin Piao fait une tentative pour prendre le pouvoir et éliminer Mao, qui se retourne contre lui, puisqu'il est en quelque sorte assassiné sous la forme déguisée d'un accident d'avion en 1971. Donc apparemment, Jiang Qing et Mao sortent vainqueurs de ce bras de fer, mais en réalité, il n'en est rien, car un autre protagoniste monte au créneau, qui est le premier ministre Zhou Enlai, lequel fait bientôt revenir au pouvoir un certain nombre de cadres grâce auxquels il avait maintenu le pays en vie pendant le chaos de la révolution culturelle, et en particulier Deng Xiaoping. Donc voilà, nous arrivons avec ce nouvel affrontement entre la faction Tianqing, qu'on appelle l'ultra-gauche, et la faction Zhou Enlai-Deng Xiaoping, à ce qui va être la lutte pour le pouvoir au moment de la mort de Mao. Les deux camps se réclament de Mao, mais alors que Mao veut à la fois l'action politique et un certain degré de modernisation économique, les partisans de Jiang Qing sont plutôt pour l'action sans la modernisation, donc la lutte des classes et l'économie, c'est vraiment secondaire, donc le bien-être du peuple est vraiment secondaire, tandis que les partisans de Zhou Enlai et Deng Xiaoping, dont va sortir la ligne des réformes qui sera mise en route après la mort de Mao et l'élimination de Jiang Qing, c'est plutôt la modernisation que l'action.
D'ailleurs, c'est et Deng Xiaoping va prendre ce tournant-là, va emmener la Chine là où elle est aujourd'hui. Ça veut dire que Mao n'est pas préparé sa succession. Est-ce que ça veut
dire ça? Mao a préparé sa succession.
Quand même.
Car cette lutte entre, qui se simplifie, qui se polarise entre deux camps dont je viens de parler, ça n'est qu'une partie du champ politique maoïste. Car il y a un troisième terme qui est celui qu'occupe, qui est l'emplacement qu'occupe Mao, qui est la place de l'arbitre et du pivot. Mais le pivot maoïste est un pivot mobile. Il est celui qui décrète à tel ou tel moment s'il faut de la lutte des classes ou plutôt de la modernisation économique ou l'inverse. Tandis que les partenaires qui s'agitent sur le champ politique, que ce soit Zhou Enlai, Deng Xiaoping d'un côté, Jiang Qing et ceux qu'on va appeler le groupe de la bande des quatre, le groupe de Shanghai de l'autre, sont cantonnés dans un rôle fixe, modernisation ou action.
Jiang Qing a été condamné notamment pour avoir fomenté un coup d'État. C'était le cas ou c'était un gros mensonge?
Non, ça n'est pas un gros mensonge. Au moment où chacun sait qu'en 1976, que Mao est atteint la fin de sa vie, il est frappé de sénilité, il est mourant. Zhou Enlai meurt avant lui en février 1976. Donc le rôle pivot dont je viens de parler n'est justement pas attribué à Jiang Qing, ni d'ailleurs à Deng Xiaoping. Il est attribué à Hua Kaofeng que vous avez cité. Oui. C'est comme cela que Mao organise sa succession.
D'accord.
Mais le problème pour Jiang Qing, c'est qu'elle ne contrôle ni la police ni l'armée. Elle a malgré tout, le groupe de Shanghai a malgré tout des troupes, des milices et un certain nombre de commandants militaires régionaux qui sont à ses ordres dans la région de Shanghai, qui est la première région économique, stratégique et géopolitique de la Chine. Mais ça n'est pas suffisant. Il y a une sorte de front uni des cadres civils et militaires qui font que au complot qui est prévu par l'ultra-gauche répond le complot dirigé par Hua Kaofeng qui aboutit à l'arrestation de Jiang Qing et ses acolytes, le 6 octobre 1976.
Qui sont les quatre de la bande des quatre?
Alors,
rapidement, parce que...
Le premier, c'est Jiang Qing.
Ouais.
Il y a deux intellectuels, entre guillemets, c'est-à-dire des propagandistes du maoïsme radical qui viennent de Shanghai, Zhang Qingchao et Yao Wenyuan, et un ouvrier qui est issu des conflits de la révolution culturelle à Shanghai, qui a été favorisé par Mao et promu, qui s'appelle Wang Rongwen. Et ces quatre ne sont évidemment qu'une tête de réseau, car
le
groupe est beaucoup plus étoffé que cela, je viens de le rappeler. Et il n'est pas sans avoir de l'influence et de rencontrer des échos dans la population chinoise. Ne pensons pas que l'ensemble de la population était contre la ligne maoïste. La ligne maoïste avait des clientèles, avait des fidèles, et le nouveau pouvoir qui émerge à l'automne 1976 aura beaucoup de mal, il faudra plusieurs mois et des actions de force résolues pour éliminer les noyaux de résistance pro-Tianjin.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Yves Chevrier, le procès de Jiangxin et de la bande des quatre est l'un des rares grands procès jamais organisés par le Parti communiste chinois. Pourquoi cette exception? Pourquoi l'avoir autant médiatisé? On a dit à 600 journalistes, un procès hors norme.
Je vous remercie de poser la question parce qu'en réalité, c'est extrêmement significatif. Et cela traduit à la fois ce qu'était la pratique de pouvoir maoïste et ce qu'elle devient sous Deng Xiaoping et depuis lors, aujourd'hui. C'est un véritable basculement. Les ennemis de Mao ne sont pas traduits devant les tribunaux après avoir été torturés, etc., comme le sont les ennemis de Staline. Ils sont dénoncés, ils sont parfois très maltraités. Liu Shaoqi est amené à meurt en prison de mauvais traitements, de malnutrition, etc. Mais ils ne sont pas jugés. Ce qui fait que le procès qui est organisé à l'automne 1980 marque la fin du régime maoïste, précisément par le fait qu'il existe. Il est le premier. Et ça n'est donc pas, je me permets de nuancer peut-être certaines appréciations, ça n'est pas une erreur stratégique qui a été commise à ce moment-là. C'est au contraire tout à fait voulu que ce procès soit public, qu'il y ait des avocats de la défense, même si tout, évidemment...
On n'a pas dit le contraire. On a dit que c'était une erreur de donner à Mme Mao une tribune.
Voilà. Et en fait...
Mais le procès, non.
Non. Il fallait, parce que précisément, la politique de Deng Xiaoping, ce n'est pas seulement une politique de réforme économique et d'ouverture, c'est aussi un retour à la bonne marche régulière des institutions socialistes. Donc c'est la preuve par le mouvement. Il y a dans les institutions des règles, il y a des règles juridiques, et par conséquent, on va juger le maoïsme sur la base de ces règles et on fait un procès. D'accord. Et ce procès, qui a lieu donc à l'automne 80, il précède de quelques mois la décision historique sur le rôle de Mao. Et vous savez que cette décision qui a été rendue par le comité central en juin 1981, c'est une décision qui sauve l'essentiel du personnage historique de Mao et du maoïsme, tout en reconnaissant qu'il y a une part condamnable. Et comme vous l'avez très bien dit, cette part condamnable, c'est Jiangxin qui doit l'assumer, mais non pas dans une lutte des factions qu'elle aurait perdue, mais à la suite d'une sentence rendue par un tribunal régulier.
Bien. Un mot tout de même de la révolution culturelle. On sait ce que c'est, ou soit précisément, soit moins précisément. Rappelons les principes de la révolution culturelle qui n'avait de culturelle que le nom.
Elle n'a de culturel que le nom, mais en réalité, je crois, vous l'avez vous-même dit dans votre excellent récit historique, et c'est un autre point sur lequel on voit la convergence entre Mao et Tianjin, le front culturel, c'est-à-dire qu'en marxisme on appelle les superstructures, est extrêmement important aux yeux de Mao, et c'est en cela qu'il diffère des communistes ordinaires, ou par exemple des staliniens en URSS. Et c'est probablement l'une des raisons pour laquelle leur couple s'est constitué, puisque lorsqu'ils se rencontrent à Yan'an en 1937, alors la légende veut qu'effectivement Tianjin, arriviste, ambitieuse, se soit montrée et étalée sa beauté aux yeux de Mao, mais il est beaucoup plus probable qu'ils se soient rencontrés sur le fait qu'elle est une activiste de la culture et que lui est en train de cibler le front culturel comme un élément majeur de sa stratégie révolutionnaire.
Mais est-ce qu'on parle, quand on dit front culturel, est-ce qu'on parle de propagande?
Alors, on ne parle pas de propagande. Il y a des propagandistes du régime. D'accord. On parle d'action culturelle, c'est-à-dire de création artistique. Et le paradoxe du maoïsme, qui est aussi le paradoxe de Tianjin, est que ces tyrans tortionnaires, sanguinaires, veulent que les artistes, les producteurs d'art, les intellectuels soient autonomes dans leur action révolutionnaire. C'est-à-dire qu'ils veulent à la fois le beurre et l'argent du beurre. Ils n'y parviennent évidemment pas, ils sont obligés de réprimer, ils sont obligés de sanctionner, mais l'idéal maoïste est que Et c'est ce que Mao a essayé de réaliser avec les gardes rouges, c'est que les révolutionnaires soient spontanément révolutionnaires dans leur action et que cette action ne leur soit pas dictée et qu'elle ne le soit pas imposée par une autorité surplombante. Oui. Et cela, c'est le fond de Mao, c'est aussi la façon dont Xianqing a voulu voir l'action artistique, bien qu'elle l'ait appauvrie d'une manière absolument ridicule et concernante, puisque l'extraordinaire répertoire théâtral chinois a été réduit pendant les années de révolution culturelle pour des centaines de millions de personnes à 8 pauvres opéras révolutionnaires.
C'est pour ça que je dis qu'elle avait de culturel que le nom. Bah, pas tout à fait, mais de ce point de vue, oui. On a prononcé le nom Deng Xiaoping, c'est vraiment très important. Est-ce qu'on peut dire que c'est cet homme-là qui, en 1980, enfin dans les années 80, pardon, pose la première pierre de ce que sera la Chine économiquement puissante d'aujourd'hui. Je rappelle qu'elle est deuxième puissance économique mondiale derrière les États-Unis et devant le Japon et l'Allemagne en quatrième. Est-ce que c'est lui? Est-ce que ce tournant-là, là, c'est pas un grand bond, c'est peut-être le tournant. Est-ce que c'est lui?
Oui, c'est tout à fait lui. Mmh. Il organise ce que dans le livre dont vous avez rappelé le titre, L'Empire Céleste, j'appelle la sortie du maoïsme, ce qui n'était pas rien, mais ça n'est que la première pierre.
Ouais.
La seconde pierre a été posée par les successeurs de Deng Xiaoping. Il meurt en 1997, mais il se retire du pouvoir effectif dès le début des années 90. Et cette deuxième pierre a renforcé l'État. Et à l'heure actuelle, l'État est véritablement au centre de la vie économique, de la vie sociale, et le régime de Xi Jinping est, de ce point de vue, le deuxième fondateur de l'après-Mao, mais avec un axe encore beaucoup plus affirmé du côté de l'État que c'était le cas sous Deng Xiaoping, qui, lui, avait la charge de faire sortir la Chine de la révolution.
En une minute, je sais que pour un historien c'est court, mais en une minute, quels sont les desseins géopolitiques de la Chine aujourd'hui? Alors, bien sûr, l'hypothèse d'une invasion de Taïwan, personne ne peut l'écarter, est-elle pour autant probable? Je ne sais pas. Mais quelles sont les vues de la Chine sur la scène mondiale aujourd'hui? Précisément.
Alors, d'une minute, c'est quasiment...
Ouais, c'est impossible.
C'est quasiment impossible. Ce que je voudrais dire,
mais
c'est
bon.
Que pour des révolutionnaires comme Mao ou Xianqing, la guerre était la guerre politique interne.
Mm-hmm.
Et il y a eu des guerres avec l'Inde, et même des petites guerres côtières avec Taïwan, mais il n'était pas envisageable de livrer une grande guerre contre les États-Unis. Parce que, précisément, le positionnement n'était pas d'État à État. Aujourd'hui, l'État étant au centre de la politique chinoise, la guerre, malheureusement, est possible.
Elle
ce qui ne veut pas dire qu'elle va arriver.
Bien sûr, mais elle est possible.
Mais elle n'est plus impossible comme elle est, parce qu'il n'y a plus de guerre interne en Chine. L'État empêche à retrouver le monopole de la violence légitime, mais la guerre est possible.
On va terminer là-dessus. La guerre est possible. C'est un peu brutal, hein. Je suis désolé.
C'est un peu possible. C'est un peu brutal. Mais du moins, elle a cessé à l'intérieur. Et c'est la grande défaite de Xianqing, puisqu'elle aurait bien voulu que ça continue.
Merci infiniment, Yves Chevrier. Merci. Au revoir. Et Affaires Sensibles aujourd'hui, la veuve de Mao Tse-tung, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Philippe Duclos.